grand témoin. Bonjour, c'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver tous les dimanches pour vous présenter celui qui sera notre grand témoin. Et aujourd'hui avec moi dans ce studio, le professeur Philippe Massegabio-Nzanzu. Il est professeur d'université, écrivain et homme politique. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Alors avec vous dans notre entretien, on va vous présenter auprès des auditeurs de Radio Capi qui nous suivent en ce moment, partenaires d'essai et même à travers le monde grâce à notre site internet www.radiookapi.net. Vous avez occupé plusieurs fonctions politiques dans ce pays. Vous êtes passé par l'enseignement, par l'écriture aussi. On va en parler dans cette émission, mais avant cela, on va faire un grand pas en arrière pour parler de votre enfance. Vous êtes né un certain 14 juillet 1944.
Où? À Bosso Manzi. C'est une mission du territoire de l'Issala, en Équateur.
Et c'est là où vous avez grandi?
C'est là où j'ai fait mes premières études primaires, jusqu'en 5 ans, parce que j'ai fait que 4 ans et demi au lieu de 5. Il semblait que je n'avais pas besoin de faire 5 ans.
Pourquoi? Parce que vous étiez intelligent?
On m'a fait grâce d'une demi-année, peut-être à cause de ça, mais je crois. Et j'ai fait 4 ans et demi, et puis après, je suis allé faire 2 ans de on l'appelait ça à l'époque de préparatoire, dans une mission à 148 km de là, à 18 km de l'Issala, Oumangui. Ensuite, à 14 ans, je suis passé au collège Saint-Thomas-More de l'Issala, où j'ai fait mes humanités gréco-latines.
C'était un choix personnel ou bien vous, là, imposé?
C'est-à-dire que c'était un peu imposé dans la mesure où le collège Saint-Thomas-More de l'Issala, c'était un collège sélectionné, c'était un collège assez spécial. Les enfants qui venaient de différentes circonscriptions, de différents coins de la province, et même d'ailleurs, ils venaient du sud, du nord, tout ça. Et nous, on se rassemblait tous dans ce collège qui était un collège des scoutistes. Ils voulaient en faire un collège comme le collège Albert. Ils avaient ce complexe-là. Les scoutistes, ils voulaient bien faire un collège de grande qualité, un collège sélectionné. Et les élèves venaient d'un peu partout. Et c'est là que nous nous sommes retrouvés à plusieurs, des gens qui venaient de Mbandaka.
C'était un grand collège.
Un grand collège. En tout cas, c'est le plus grand à l'époque.
Est-ce qu'il existe toujours?
Il existe toujours, maintenant il a pris un nom, tandis qu'il a pris le nom de collège Elikia, l'espoir.
Depuis que vous avez eu votre diplôme, est-ce que vous êtes retourné une fois dans ce collège?
Oui, plusieurs fois. Écoutez, j'ai été pendant longtemps un élu du peuple, donc l'obligation était que chaque fois j'étais à l'Issala, je rentrais par là. C'était un plaisir d'aller revoir les milieux où nous avons étudié. On a revu les missionnaires, on a revu le dortoir avec beaucoup d'émotion. Moi-même à l'Issala, j'y vais assez souvent parce que j'ai une résidence là-bas, c'est pas très loin. Donc chaque fois qu'on est là, c'est un plaisir de rentrer voir ce collège, d'aller voir ces milieux que nous avons connus quand nous étions jeunes.
Philippe Massegabio, vous avez grandi dans quelles conditions?
Très bonnes. Des conditions sociales, familiales très bonnes. J'ai eu la chance, parce que c'est une chance d'avoir des parents qui étaient des commerçants, mais des commerçants suffisamment aisés, de sorte que je crois que c'est une bénédiction. Je n'ai pas eu à faire connaître beaucoup de poisses comme beaucoup de mes amis. Déjà à l'âge de 405 ans, mon père qui était un ancien séminariste de la génération du cardinal Malula, c'était un collègue d'ailleurs du cardinal Malula, il m'apprenait déjà des mots latins pendant que nous étions enfants. À 5 ans, il m'a appris à monter dans un vélo. En 4e primaire, je mourais d'envie d'être dactylo et nous sommes allés à Businga, loin de là, il m'a acheté une machine à écrire et je suis tapé à 10 doigts à l'âge pratiquement de 10 ans. Et de là, nous sommes allés à Oumangui, au collège où quand j'ai commencé, j'avais 14 ans. Mon père, qui était un vendeur de café, il a acheté un véhicule. Je pense que c'était le premier véhicule de cette circonscription de notre territoire. Et j'ai déjà à 14 ans, j'ai eu donc ce bonheur de savoir conduire un véhicule.
Un véhicule.
Ce qui est quelque chose d'extrêmement rare à ce moment-là. Ensuite, au collège, c'était un collège très bien soigné parce qu'il y avait il faut le dire, des enfants.
Non, c'était un collège des enfants, des familles aisées.
Non, pas ça, mais disons, n'y venaient généralement que des enfants qui avaient réussi ailleurs et qui avaient réussi avec une bonne cote. On n'envoyait pas tout le monde. Donc, c'était un collège vraiment sélectionné. Le collège a commencé à débuter en 57 avec la première génération, les professeurs Vondouaoué, Tepe Makou. Nous sommes la deuxième génération avec le feu Jean Séti y aller. Nous sommes cette génération-là. Et je les cite pour mémoire parce que ce sont des grands noms que nous avons connus de ce collège-là. Mais nous avions également l'avantage, comme c'était une année ou deux avant l'indépendance, il y avait des enfants, des colons qui étaient avec nous, ce qui montre un peu, si on peut se permettre de le dire, à cet niveau de cet enseignement, parce que déjà, les administrateurs blancs qui étaient là, ils faisaient étudier là, dans ce collège-là, en même temps que nous, leurs enfants.
Quel est le souvenir qui vous a le plus marqué pendant votre enfance?
Le souvenir de mes parents, mais principalement de mon père. C'est quelqu'un de profondément sévère, mais cette sévérité m'a beaucoup aidé. J'ai eu un père qui m'a éduqué, mais j'ai dit franchement, j'ai eu un père qui m'a dressé. J'ai été réellement dressé. Et ça m'a resté parce que ce qu'il avait comme idéal, il voulait jamais terminer un travail qu'il avait commencé sans qu'il achève comme il faut. Et il me faisait citer un vers latin qui disait « Agecot agis, agis ». Ce que tu es en train de faire, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut avoir la concentration et terminer le travail qu'on fait. Ce sont des choses qui me sont restées. Il avait le sens de l'initiative parce qu'il a eu à initier beaucoup de choses, par exemple la chasse à l'arbalète qui n'était pas connue chez nous. À 16 ans, 16 ans et demi, j'ai su utiliser un fusil de chasse comme un calibre 16, un calibre 12, ce qui veut dire que lui l'utilisait déjà, ce que les villageois n'avaient probablement pas ce genre d'arme. Donc il m'a marqué dans ce genre d'initiative, dans ce genre de choses qu'il faisait. Je dois également signaler que j'ai eu de lui, quelque chose qui m'est resté, c'est que c'était un chrétien profondément croyant. Je me souviens que beaucoup plus tard, quand il venait me voir ici, il disait à ma femme, quand elle n'avait pas encore fini ce qu'il appelait ses rosaires à 18h, il voulait pas manger. Il dit non, j'ai pas encore fini mes rosaires, c'est-à-dire qu'il lui a dit qu'il n'avait pas encore terminé à faire ses chapelets. Et ça m'est resté. Je pense que si j'ai quelque chose que je peux retenir de lui, c'est un peu ce goût de la prière, ce goût des choses bien faites, ce goût de l'idéal. Et je termine en disant quelque chose qu'il m'avait dit quand j'étais enfant. Son propre père lui avait dit, mon enfant, je t'envoie à l'école pour que tu me ramènes un jour un chien dressé des blancs, parce qu'à l'époque c'était des chasseurs. Et ramener un chien dressé comme un berger allemand, c'était pour les villageois une grande gloire. Mais mon père ne m'a pas demandé d'aller étudier pour lui ramener un chien. Il dit, écoutez, je t'envoie à l'école, il faut que tu deviennes secrétaire.
Secrétaire, pourquoi?
Non mais bon, pour leur niveau, être secrétaire d'administration, c'était un grand titre, ça. Vous voyez, ils voyaient ça dans la nation coloniale. Mm-hmm. Les secrétaires, les chefs, c'était des blancs. Alors, les premiers noirs, c'était des secrétaires, des blancs. Donc, écoutez, mais je t'envoie à l'école. Si tu veux revenir un jour avec un titre de secrétaire, je serais très, très content.
Vous êtes allé au-delà même de secrétaire.
Oui, c'est une bénédiction. Oui. Je suis allé un peu plus loin que ça.
Professeur Philippe Maché-Gabio, vous êtes marié?
Marié, père de 6 enfants.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
La médiocrité. J'ai une phrase que j'ai écrite un jour, parce que quand j'étais enfant, je tenais un journal, et puis un jour, dans une collège, je ne sais pas comment j'ai déchiré, mais je me souviens que j'avais écrit un jour, dans l'un de ce journal, la phrase que voici, que je n'oublie pas. Ceux qui ont coutume de dire que ceci est assez bon comme cela n'ont pas le sentiment véritablement artiste. Je pense que quelqu'un qui est un véritable artiste, l'artiste, c'est pas nécessairement le fait de produire des œuvres, mais on est artiste dans sa dimension, dans sa vie, dans son idéal, dans le choix qu'on fait de grandes choses. Ce sont des gens qui veulent faire un travail correctement, le peaufiner, l'achever, et éventuellement vraiment aller jusqu'au fin fond des choses. Et c'est pour cela que l'idéal, c'est quelque chose que je recherche dans ma vie. On n'atteint jamais l'idéal, mais je pense que c'est quelque chose qui est une motivation importante dans ma vie. Et donc, par contraire, je déteste la médiocrité.
C'est quoi votre plat préféré?
J'aime bien manger, comme je suis un chasseur, j'aime bien manger un peu de gibier, mais maintenant je n'en mange plus à cause de ma goutte parce que j'ai grandi. Mais si j'ai un plat de viande avec un peu de pondou, avec de...
Un plat de viande...
Gibier.
Attends, ça y est, les bolas maintenant.
Mais
hein,
oui, mais... Moi, je vis à Kinshasa, on ne vit pas, on ne vit pas à l'Équateur.
Mais oui, ça peut venir de l'Équateur.
Ça,
hein.
Ça peut venir de là. Mais en même temps aussi, j'aime bien le poisson quand c'est préparé en...
Poisson frais.
Poisson frais, en liboké, tout ça, chose bien. Ou même quand on me fait du pondour avec la viande faisandée, alors là, j'aime beaucoup.
Radio Capi, grand témoin.
Grand témoin, vous fait découvrir aujourd'hui Philippe Massé-Gabio Nzanzou. Il est professeur d'université, écrivain et homme politique. Professeur, vous obtenez votre licence en philosophie et lettres à l'université de l'Ovalium, j'allais dire de Kinshasa, ex-Ovalium.
Oui, mais je vous permets de le dire, mais personnellement, j'aurais bien voulu que vous insistiez sur le mot de l'université à l'Ovalium, parce que nous, les anciens de l'Ovalium, nous n'aimons pas beaucoup qu'on nous dise que nous sommes de l'Unikin. Je vais choquer personne.
C'est la même université, de toutes les façons. Ouais. C'est juste la dénomination qui a changé, un peu comme votre collège de l'Équateur, de l'Issala.
Disons que la localisation n'a pas changé, c'est le même...
C'est le même bâtiment.
Le même bâtiment, Kinshasa 11, c'est vrai, mais bon, l'enseignement, c'est pas le bâtiment, et c'est pas le lieu, mais c'est aussi, enfin, ce qui fait la valeur de l'enseignement, c'est davantage le contenu du cours, et le contenu du cours donné par les maîtres qui donnent ce cours. Il faut le dire avec beaucoup d'honnêteté, sans choquer personne, que le même contenu n'est plus celui que nous avions à l'époque aujourd'hui. C'est pour cela que rendez à César ce qui est à César. Nous aimerions bien que vous nous rendiez notre petit César en disant que nous sommes diplômés de l'université Ovalium, qui était en fait l'émanation, qui était en fait le prolongement de l'université Louvain. Parce que Louvain, ça veut dire l'Ovalium, c'est une extension. Donc vous voyez, le fait seulement de dire Louvain, l'Ovalium, vous voyez, vous établissez déjà une espèce de parallélisme entre les deux qualités d'enseignement de ces deux universités.
Alors, je vous le concède, professeur, de l'université de l'Ovalium qu'on appelle aujourd'hui Kinshasa, l'université de Kinshasa.
Absolument.
Alors, je disais, vous avez obtenu votre licence en philosophie et lettres. Mm-hmm. Donc, c'était la continuité de vos études humanitaires, comme vous avez fait les gréco-latines. Vous avez décidé de faire la philosophie et les lettres.
Et tout à fait. En réalité, quand nous avons terminé les humanités, j'avais vraiment envie de faire le journalisme. Parce que, pour une raison très simple, aux humanités, nous avions les langues comme principale option, le français, les langues grecques et latines. Et j'étais assez fort dans ces matières-là. Quand il y avait des dissertations, et nous avions là-bas un livre d'or, et ce livre d'or, si vous le voyez aujourd'hui, vous voyez que pour notre promotion, je suis celui qui a le plus signé les meilleures dissertations de notre promotion. Alors, bon, le prolongement, c'était le métier de journalisme. Mais lorsque nous sommes arrivés ici, le métier de journalisme n'était pas encore organisé en département, disons, en structure, en enseignement, comme cela fait aujourd'hui. J'avais également envie de devenir avocat, mais bon, à l'époque, je bégayais très fort, très très fort, et j'ai pas voulu faire ce métier d'avocat, mais je l'aimais beaucoup. Et alors, les gens m'ont dit, pourquoi est-ce que vous compliquez les équations simples? Vous avez fait des humanités gréco-latines, vous aimez écrire, vous écrivez assez bien. Alors, j'ai dit, mais oui, mais moi, je vais aller faire l'étude de philosophie et lettres avec option philologie romane, justement, qui s'occupe des langues, le français, les langues romanes, des langues qui découlent du latin.
Mais vous ne regrettez pas de n'avoir pas fait le journalisme ou le droit?
Non, pas du tout, mais dans la vie, et j'ai essayé d'y revenir un tout petit peu parce que j'ai créé une fois, un journal ou deux et qui a apparu pendant 2-3 ans et puis après il s'est éteint. J'aime beaucoup le métier de journalisme. En fait, le journalisme, c'est un peu quelque chose qui est proche du métier d'écrivain, c'est l'écriture.
Vous avez débuté votre vie active comme chercheur à l'Office national de la recherche et du développement.
C'est exact. Alors vous êtes bien renseigné sur moi. Qu'est-ce qui est arrivé j'étais en 68, mais en 67, l'université avait organisé un concours qu'on appelait le concours de poésie Sébastien Gosson. Je suis sorti deuxième de ce concours et en 68, en dernière année, il y a eu l'université qui a organisé un autre concours de lettres en collaboration avec l'ambassade de Daman fédérale. Je suis sorti premier et pour mon bonheur, la remise de ce prix a eu lieu ici sur Boulevard du 30 juin à l'Institut Goethe Institut, parce que c'était la coopération allemande qui organisait. Et ce jour-là, je vous le dis parce que c'est une petite histoire, le recteur Monseigneur Tibangou, il voit le président de l'ONRD qui était le feu président Iléo. Il m'a fait venir, il me présente Iléo, il me dit voilà celui qui a eu le premier prix et il est de votre province de l'Équateur. Le président Lyon me dit, mais toi tu es de Quater, je lui dis, mais oui. Il me dit, mais si tu termines, viens à l'ONRD. Je suis allé un peu malgré moi, parce que nous, à l'époque, l'habitude c'était que quand vous terminez à l'université, vous avez une distinction, vous avez votre distinction, vous étiez retenu d'office comme assistant. Donc j'étais assistant d'office. Mais avant même que j'ai eu ma lettre de nomination, je suis passé un jour comme par hasard en ville, sur la ligne comité urbain, et je trouve là, je vois qui ONRD, j'ai dit, tiens, mais j'entre avec un ami. J'ai dit, mais c'est quoi ici? Alors on me dit, mais vous appelez comment? J'ai dit, mais c'est Gabi. Il dit, mais...
On vous attend?
Elle dit, mais on vous attend ici. J'ai dit, mais moi, comment? Alors le directeur me montre un bureau qui était vide. Il dit, c'est votre bureau. Je dis, non, c'est pas vrai. Moi, je suis assistant
à
l'Ovanium. J'ai dit, non, je viendrai jamais. Et puis, je continue. Et puis, l'ami qui était avec moi, il dit, mais tu n'as même pas demandé combien tu vas gagner ici. J'ai dit, mais c'est exact. Nous devons faire marche arrière. Et je demande à ce directeur, il s'appelle François Pandi. Quand il m'a vu revenir, souriant, il dit, mais je savais que vous allez revenir. J'ai dit, pourquoi? Il dit, mais ici, vous avez 125 000. Wow, 125 000. Alors qu'à l'université, on avait 55 000. Alors, bon, le choix était clair.
J'avais décidé. Je commencer le boulot.
Séance de Nantes. J'ai dit, bon, je viens demain. Voilà comment je me suis retrouvé à l'ONRB. Et plus tard...
Vous faisiez quoi exactement?
C'est un office national de la recherche et développement. C'était, on a eu à l'époque l'idée de créer un office de recherche, comme ça existe dans d'autres pays, justement, où l'on faisait de la recherche pour le développement dans tous les secteurs. Et étant du diplômé de philosophie et lettres, j'étais affecté tout naturellement dans la section sciences humaines. Et c'est là, entre autres, pour montrer le résultat que j'ai eu la charge de rédiger une première bibliographie de la littérature congolaise qui n'existait pas à l'époque, mais le travail a abouti à la rédaction de l'anthologie. J'ai publié une anthologie sur la poésie zaïroise de langue française en 1976 qui d'ailleurs a été imprimée en Allemagne fédérale. Donc c'était un peu le travail qu'on nous faisait faire, la recherche en vue de la publication, des publications en vue de l'impact sur le développement.
Ok. Et quelques temps après, vous vous retrouvez dans l'enseignement?
Et quelques temps après, l'ONRD ayant cessé d'exister, je suis allé à Lubumbashi parce que la faculté des lettres était transférée, après l'UNASA était transférée à Lubumbashi. Je suis allé là-bas, j'ai fait un mois, mais finalement j'avais des conditions, je devais me marier et je suis pas resté à Lubumbashi, je suis rentré. Quand je suis resté ici, ma femme qui venait de terminer ses études, elle dit, écoutez, moi j'ai pas envie d'aller à Lubumbashi, écoute, tu ne peux pas donner un cours ici. J'ai dit, mais ici, c'est, je ne sais pas quoi. Alors, je suis allé demander à l'IPN, à l'époque, l'IPN a dit, écoutez, mais oui, ici, vous avez la faculté, vous avez la possibilité de faire les mêmes études ici. Surtout que je me préparais pour aller faire mon doctorat, parce que c'était en fait une préparation pour un jour faire son doctorat. Alors, je suis resté ici à l'IPN, j'étais engagé comme assistant, et puis plus tard, chef des travaux, je vais m'occuper des fonctions administratives. On m'a nommé directeur de ce qu'on appelait à l'époque la DOCDIF, c'est-à-dire documentation et diffusion. C'était l'imprimerie, la librairie, tout ce qui était par rapport avec le livre.
Et aujourd'hui, vous êtes professeur d'université parce que vous avez défendu votre thèse le 30 août dernier.
Il y a pas longtemps, et j'ai enseigné pendant longtemps à l'IPN, mais j'étais soit chef de travaux, et plus tard, j'ai fait mon DA il y a pas longtemps non plus. Mais comme mon père me l'a dit, il faut toujours aller plus loin. Et j'ai dit, non, je vais terminer. Tout le monde m'appelait professeur. Et j'ai dit, mais je n'ai jamais eu ce grade par la grande porte. J'ai dit, je vais l'avoir par la grande porte. Et voilà.
Et c'est fait.
C'est fait.
On peut vous appeler professeur aujourd'hui.
Absolument.
Sans problème.
Sans problème.
Comment vous vous occupez, professeur, lorsque vous êtes libre?
Beaucoup de lectures, beaucoup de lectures. C'est une passion, vous savez, la lecture. Je n'ai pas d'affaires commerciales. Je lis de temps en temps. Je rentre chez moi à Issala de temps en temps. Quand j'ai un petit voyage à faire, je le fais. Mais bon.
C'est plus. Est-ce que vous aimez la musique?
J'aime beaucoup la musique, mais ça dépend de quelle musique.
Voilà, c'est quelle musique que vous aimez?
J'aime bien la musique de danse, mais la musique de chambre aussi. J'aime bien Kofi, j'aime bien... sur le plan national, mon meilleur artiste que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai connu personnellement, c'est Taboli. J'ai même fait un voyage avec lui une fois. En 73, nous sommes avec lui à Tunis. J'aime beaucoup cette musique-là, ce que j'appelle les musiques des danses, c'est-à-dire pas la musique des danses jeunes, j'ai la musique des danses.
Un peu la rumba, un peu ancien
la rumba,
succès.
Ce succès, des choses comme ça. Et puis, j'aime bien la musique classique aussi. J'aime bien la musique classique.
C'est ça que vous appelez musique de chambre ou bien?
Oui, à peu près. Bon, vous savez, quand vous êtes, avant d'aller dormir, écoutez bien un petit morceau
doux,
là, écoutez, ça vous emballe.
Ça vous berce et puis...
Ça vous berce et puis vous dormez tout de suite.
Alors, professeur, Maché Gabio, on va souffler un peu. Quelle chanson de Taboulaye vous ferait plaisir en ce moment?
Bon, il y en a beaucoup. Majolina, j'aimais beaucoup Majolina. Il y a... allez, vous êtes forte dans cela. Donnez-moi des titres, je vous dirai oui ou dirai non.
Mazé. Kélia.
Oui, Kélia. Mokonakoukoufa. Ça ferait beaucoup réfléchir, ça. Nzalé, j'étais ému quand j'entendais Taboulaye chanter une fois Nzalé. Je me disais, mais est-ce que c'est une musique de chez nous? Est-ce que c'est quelque chose qui vient d'outre-mer? Le son lointain, le son...
Alors, entre Nzalé et Mokonakoukoufa.
Je préfère Nzalé.
parlent de leur vie, de leur parcours et se livrent à cœur ouvert. Grand Témoin invite des femmes et des hommes de culture, des acteurs politiques, sociaux et du monde économique qui ont croisé différents événements et les changements qui ont accompagné les grandes étapes de la construction du pays. Grand Témoin, 45 minutes pour mieux comprendre notre histoire commune, racontée par ses acteurs. Tous les dimanches, 12h15, heure de Kinshasa, en compagnie de Kelly Nkouté sur Radio Okapi.
Grand Témoin, le plaisir de vous présenter aujourd'hui le professeur Philippe Massé-Diabio-Nzanzou. Il est professeur d'université, écrivain et homme politique, professeur parlant des postes politiques que vous avez occupés ou des fonctions politiques que vous avez occupées dans ce pays. D'abord, qu'est-ce que vous attire en politique?
Quand la politique est bien faite, elle m'attire parce que justement ça vous donne l'obligation d'une responsabilité. Et la politique, en fait, pour moi, c'est l'apprentissage d'une certaine responsabilité, le fait de savoir qu'on n'est pas seul, qu'on est avec les autres, et que quelles que soient les fonctions que vous ne l'occupez pas pour vous-même, vous l'occupez pour justement essayer d'améliorer l'équipe quotidien de vos concitoyens et des autres. Il faut faire tout pour que cette prise de responsabilité soit profitable aux autres. C'est un peu toujours cette recherche de l'idéal que je cherche, que je voudrais retrouver également en politique. Mais je dois dire que je suis tombé en politique un peu comme un cheveu dans la soupe. Je ne m'y préparais pas, je suis tombé comme par hasard.
Comment ça? Expliquez-nous, racontez-nous la petite histoire.
Oui, la petite histoire, j'ai travaillé en ce moment-là à la présidence. C'était le bureau du conseiller spécial CETI qui s'occupait des questions de renseignement, mais d'études, parce que le CNE, c'est pas la sécurité comme telle, c'est pas la filature, c'était vraiment, on faisait venir des spécialistes de chaque point, il y avait des professeurs, et chacun s'occupait d'un secteur bien donné, et on vous donnait des travaux, on vous donnait des sujets, on vous donnait des questions à étudier, et vous les rendiez. J'étais en ce moment-là en partance pour Munich, parce que je venais d'obtenir une bourse pour aller faire ma thèse de doctorat à Munich. Et je suis allé le dire, il était mon patron, j'ai dit, mais moi je pars, parce que la coopération allemande m'avait donné une bourse très douillette d'ailleurs. Il est parti, il dit, non, vous ne partez pas, parce que le président a intention de vous nommer conseiller culturel. J'ai dit, non. Mais à l'époque, conseiller culturel, le président, c'était un grand poste. J'ai dit, non, mais moi je pars, tout ça. Il dit, non, tu pars. Alors, nous étions au mois de février 81, le 25, on me demandait d'arriver à Munich à minuit, au-delà de minuit. Nuit, je perdais ma bourse et je suis rentré. Je sortais d'un cours, comme par hasard, d'ailleurs, de littérature allemande, parce que je donnais les littératures étrangères. Et pendant que je me dirigeais vers la maison, j'entends, on dit, écoute, ah non, mais on vient entendre votre nom, vous êtes nommé secrétaire d'État à la culture. J'ai dit, moi, mais bon, je suis rentré à la maison, j'habitais pas loin de là. Ma femme n'avait pas entendu, n'avait pas suivi la radio, et vers 16h, c'est à ce moment-là que je me rends compte qu'il s'agit bien de moi, parce que la radio a repris l'ordonnance présidentielle, et voilà comment je suis entré secrétaire d'État à la culture. J'ai fait deux mois et demi.
Sans vous consulter, on vous nomme, ça se passait comme ça à l'époque?
De temps en temps, oui, de temps en temps. Mais j'ai eu de la chance d'avoir plusieurs ordonnances qui ont été signées avec mon nom, sans que jamais j'ai été consulté. Un exemple, j'étais nommé administrateur des universités, des ISP, j'étais secrétaire d'État à l'enseignement secondaire, je ne savais pas comment et d'où était partie la proposition. J'étais parlementaire, un jour, le soir, j'entends mon nom, que j'étais nommé administrateur à la SNEL. Vous voyez la philosophie, les traits de la SNEL, je me disais, qu'est-ce qui se passe? Je n'ai jamais été consulté. Lorsque j'étais nommé ministre de l'Information et Presse, j'étais en train de dormir dans mon petit appartement. Quelqu'un qui était avec le président du Sénat, qui était premier ministre à ce moment-là, c'était un garde-corps qui m'appelait, il m'a dit, ah, vieux Nanga, vieux, mais Yakam, nous venons de rentrer de Gbado et votre nom est sur la liste, vous êtes nommé ministre de l'Information. J'ai dit, mais moi, pas une fois, il m'a dit, mais oui, et voilà comment. J'ai eu comme ça des postes pour lesquels je n'ai pas été consulté. Mais c'était un peu aussi l'habitude, hein, disons qu'il faut le dire. Mais ce n'est pas qu'on vous faisait offense. Normalement, à l'époque, avec le maréchal Mobutu, il avait, c'est quelqu'un, je ne peux pas faire d'éloge pour lui, mais je rends hommage, hein, c'était un travail qui se faisait. On connaissait presque tout le monde. Vous savez, vous aviez un fichier un peu partout. On savait qui vous étiez, on savait ce que vous valiez, ce que vous ne valiez pas. Et quand vous aviez un peu émergé dans votre secteur, vous deviez normalement vous attendre à ce que vous ayez une nomination sans même qu'on vous consulte. Le président Mobutu nommait des gens comme ça et dit, mais comment je veux quelqu'un de ce profil. Et ce collaborateur cherchait quelqu'un de profil. Et puis on savait que nous n'avions qu'un seul parti. Et c'était un seul parti, donc vous n'avez pas le choix.
Vous répondiez à tous ces profils pour le ministère de l'enseignement, primaire et secondaire,
je ne sais
culture,
pas.
Presse, information et presse.
Je ne sais pas, mais je me rends compte que c'est une grande bénédiction de ça comme ça. Je suis passé un peu par là. Mais la culture, c'était un peu normal parce que j'étais déjà écrivain. Mon premier livre, je l'ai publié en 68 quand j'ai terminé mes études. Et j'étais un peu accepté comme président. En 72, j'étais le premier président de l'Union des écrivains zaïrois, l'USA, qui est devenu plus tard l'UECO. Donc, c'était un peu mon itinéraire. Et de là, on me nomme secrétaire d'État à l'enseignement secondaire. Bon, philosophie et lettres, c'est toujours l'enseignement. Je suis allé par là. À l'information...
Vous êtes aussi à l'aise?
J'étais aussi à l'aise. Bon, l'information, vous voyez, c'est ce que nous faisons. C'est la parole, c'est la plume, c'est la communication. Je ne connaissais pas vraiment l'audiovisuel, il faut le dire, mais j'ai dû commencer avec mes collaborateurs à prendre sur le tas ce que c'est que l'audiovisuel. Mais je crois que je n'ai pas beaucoup déçu, à moins qu'on me dise que j'étais décevant, mais moi-même je ne crois pas que j'étais décevant dans ce poste-là que j'ai la chance d'occuper.
Alors vous êtes tombé comme un cheveu dans la soupe, dans la politique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, mais après ça vous a emballé.
Ça, je suis resté, vous savez, quelque chose parfois, vous êtes un happé comme ça, vous entrez quelque part et puis fait la maudite côté, mais je me suis pas très mal, comme dans ce studio-ci, je me sens pas très mal. Si vous me demandez de rester longtemps, je vais y rester longtemps parce que je me sens très bien. C'est un peu comme ça, on sait, en politique.
Député national.
J'étais député national pendant 8 ans. Président de la grande commission socioculturelle. À l'époque, il y avait que 3 commissions. Il y avait la PIAGI, il y avait l'ECOFIN et il y avait la socioculturelle. Je suis resté là pendant 8 ans. Ensuite, je suis rentré de nouveau au gouvernement. Du gouvernement, je suis sorti, je suis allé, je me suis occupé un peu de moi-même. Je faisais rien. Et pendant la transition, j'ai été, disons, récupéré par le MLC. J'étais à la maison. J'ai beaucoup de chance, moi. Moi, on me prend comme quand je suis à la maison.
Vous n'allez pas toquer, on vient vous chercher chez moi à la maison.
Mais je considère, mon âme, que je suis quelqu'un que Dieu aime beaucoup. Alors, vous voyez, c'est Dieu qui fait des démarches pour moi.
Vous avez été, avant la chute du maréchal, vous avez été porte-parole du gouvernement. Hein.
Mais j'étais ministre d'information, porte-parole du gouvernement, oui. pendant 2 ans. Et c'est mon dernier poste au gouvernement.
Quand la télé est arrivée, vous n'avez pas fui, vous n'êtes pas allé en exil?
Non, pas du tout. C'est une autre histoire. J'étais à la maison, moi j'habitais bien à Pigeon et la FDL est arrivée. Ils ont investi, les militaires qui ont investi sur l'avenue Okito ont investi la maison du feu Papa Lito qui n'est pas très très loin de là où j'habite. Puis finalement, on signale que voilà, ici tout près, il y a un autre ministre, Mobutu, qui était là. Ils sont entrés, ils sont venus me trouver. J'étais en train de jouer à l'harmonium, je m'essaye un peu, quand je prie, je joue un peu l'harmonium, et j'entre avec beaucoup de fracas, et puis il me dit, mais qui habite ici? Ma femme est sortie, avec mon enfant qui est au Canada, nous c'est nous. Des propriétés, on a dit, vous n'avez pas fui? Mais je viens, j'ai dit, mais je vais fuir, pourquoi? Pourquoi vous voulez que je fuis? Mais les autres fuient, j'ai dit, mais moi je me reproche à rien du tout, pourquoi je fuis? Et ils ont beaucoup apprécié ça, ils ont pris ma... J'avais une Jeep, tout ça, ils sont partis.
Moi, vous n'avez pas été inquiété, hein?
Bah non, franchement, disons proprement non, mais plus tard, il y a eu un ordre d'un général, je pense que le général Mounini qui n'était pas très loin, on a dit, il y avait un ministre, il a dit non, prenez-le. On m'a amené là où il y avait la base. J'ai pas été molesté, on m'a pris, j'étais là assis, et puis je battais un peu parce que j'avais une fracture de jambes. Les gens m'ont traité très bien, avec beaucoup de gars. purement faire une espèce de PV. On m'a questionné et puis je me suis rendu compte qu'il y avait là deux, trois personnes qui me connaissaient parce qu'il y en a un qui est venu dire « Ah, mais monsieur le ministre !» J'ai dit « Ah bon, mais il y a des gens qui me connaissent aussi. » L'autre dit « Ah, je n'ai plus songé, je ne sais pas. » Il y avait peut-être de chez moi. Quelqu'un qui a surgi après, il dit « Ah, mais laissez-le, lui, on n'a jamais appris de lui quelque chose de mauvais. Nous sommes venus de loin, on n'a jamais dit. » Et madame, ça, je dois le dire parce que j'étais surpris. Et puis finalement, le deuxième qui m'a fait faire cette interrogation, il sort de sa poche une liste. Il dit « Écoutez, depuis Goma, nous avons la liste des gens que nous recherchons. Votre nom ne figure pas sur cette liste. On n'a jamais su. Et c'est un peu vrai. Aucun journal, pendant la période de Mobutu, ne m'a jamais signalé comme un prédateur, comme quelqu'un qui a pris rien du tout. Donc, je me disais, mais pourquoi je vais fuir? Parce que je ne me reproche absolument rien.
Pendant la transition, après cette période, les MLC veulent vous chercher.
Vous
étiez sénateur.
J'étais sénateur et président du groupe sénatorial du MLC. Il y avait des gens comme le papa Bemba,
Jeannot,
le vieux Ngoulou, l'Endolé là. Et bon, le président a voulu que je préside ce groupe parce que j'avais une longue expérience parlementaire. Et c'est comme ça que je me suis mû à travers ce climat très bien. Et après la transition, je suis sorti. Je suis allé aux élections, mais je me suis mal préparé. Je n'ai pas pris au sérieux cette élection.
Pour les sénatoriales.
Bon, j'ai pas été élu. J'ai dit bon, mais j'ai pas été élu. Je vais faire mes études. Et c'est comme ça que je suis rentré. Je me suis remis à préparer ma thèse.
Vous avez été aussi candidat à l'élection du gouverneur.
L'année dernière, oui. C'est le même déficit de préparation qui m'a amené à l'élection du.
Mais c'est dû à quoi ce déficit de préparation?
Peut-être
que vous êtes peut-être trop sûr de vous. Vous vous dites en deux semaines, je peux faire ma campagne et puis ça va marcher.
Il doit y avoir quelque chose de pareil comme ça. Et peut-être c'est un grand défaut d'être distant de certaines choses. Je me dis, mais monsieur Amélie, c'est bien, monsieur Amélie, pas, c'est bien. Mais c'est pas l'attitude que vous devez avoir quand vous allez aux élections. Vous devez aller avec un engagement certain que vous allez passer. Mais je dois aussi dire, ce que vous savez, c'est que tout le monde sait qu'une élection comme celle-là, ça se fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Si vous allez aux élections avec beaucoup de bonnes paroles, avec... Non, mais j'ai même pas fait campagne parce que je suis arrivé à Mandaka le dernier jour, le jour quand la campagne s'est terminée. Il fallait amener beaucoup, beaucoup d'argent. Je ne comptais pas beaucoup sur l'argent. C'est une erreur. Et je comptais un peu sur moi-même. Et c'est ce que vous êtes en train de dire. Peut-être que j'étais un peu trop sûr de moi. Je suis arrivé juste pour la bonne forme. Et puis après, je suis rentré.
Vous n'êtes plus actif en politique. Est-ce que vous avez mis un point à votre vie politique ou bien c'est juste une pause? Le temps de vous
c'est juste une pause.
Préparer pour revenir en force.
C'est peut-être pas revenir en force, mais revenir en douceur. C'est-à-dire que j'ai pas mis une pause. Peut-être que j'ai mis un bémol dans le sens que je veux rectifier le tir. Maintenant, comme j'ai dit tout à l'heure, j'attends l'année prochaine si les choses vont, je veux aller s'il y a élection sénatoriale, je veux me représenter de nouveau. Je crois que j'ai cette fois-ci assez de chance d'être élu parce que je veux me préparer comme il faut avant d'y aller. Donc j'ai pas mis bon, appelons ça une pause. Moi, j'appelle ça un bémol. C'est un jeu de mots. Mais enfin, je vais refaire l'espérance politique.
Professeur d'université ou encore homme politique, vous êtes également homme des lettres.
Ouais.
Vous êtes actuellement vice-président de l'Association des écrivains du fleuve Congo.
Ouais.
C'est une association qui regroupe les écrivains du Congo, Brazzaville et Congo, Kinshasa.
C'est exact.
Ça fait combien de temps que vous êtes vice-président de cette association?
Depuis que l'association existe, c'est-à-dire depuis 2008, l'initiative vient de nos amis de Brazzaville, notamment du président de l'association qui est l'ancien ministre Bouao, Charles. Et ils ont eu l'idée de créer cette association avec le professeur Kadima Josi. Et il nous a invités ici, nous sommes allés là-bas. Et c'est à l'occasion de cette rencontre de rives. C'est un peu le vieux projet de Tshikelela Mutambi qui a toujours dit qu'il voulait bien, qu'il voyait le Congo comme un seul pays avec deux rives, avec deux rivages. Et je crois que c'est un peu pour faire honneur un peu à ce genre de disposition d'esprit, à ce genre de disposition du cœur qu'ils ont eu l'initiative de créer cette association. Donc depuis 2008, nous sommes allés. On a déjà organisé 3 fois. Nous avons décidé que ça se fasse de façon alternative, une fois à Brazzaville, une fois à Kinshasa. On a déjà fait 2 fois ou 3 fois là-bas, une fois ici. L'association est un peu dans une espèce de tangage, mais bon, mais ça dépend aussi des animateurs. Bon, les cotisations ne viennent pas très bien, mais l'esprit est toujours là, les textes sont toujours là, nous sommes toujours en association. L'association existe, elle a tendance à se focaliser aujourd'hui sur des questions d'édition, mais je pense que si une rencontre bientôt, ça sera dans le sens de pouvoir rebooster cette association qui est en train de chercher à mourir, mais elle ne mourra pas.
Vous avez plusieurs ouvrages à votre actif, Philippe Massé-Gabio.
Jusqu'à présent, mais pas beaucoup, mais j'ai publié quelques...
Plus de 2, c'est déjà beaucoup,
c'est
non
ça. Oui, mais disons-le comme ça, mon premier livre, mon premier recueil, je l'ai publié en 68. Nous sortions de l'université, c'est somme première. C'est un petit recueil qui, on ne le dit pas assez, dans la thèse de Kadima Jouzi sur la littérature congolaise, il présente ce livre comme étant, ça je le cite parce que c'est dans sa thèse, comme étant la première publication d'un écrivain de formation universitaire. En 68, je ne savais pas que j'étais le premier. Mais l'avantage de ce premier recueil, c'est le fait qu'à l'époque, il y avait cette association des écrivains francophones, présidée par le feu Robert Cornevin, et j'ai eu le plaisir d'apprendre que mon petit recueil était nominé pour le Grand Prix littéraire d'Afrique centrale. J'ai raté ce prix vraiment de justesse et tout cela. Mon second livre, je l'ai publié un peu plus tard, enfin beaucoup plus tard. J'étais déjà au gouvernement, La cendre demeure. Mais avant ça, en 76, j'ai publié l'anthologie
de la poésie
d'Aïwa, de langue française, qui a eu la médaille de bronze de l'université. J'ai publié ensuite, vers 2006, en 2006, Fais-moi passer le lac de Caïman, qui était présenté ici. En 2009, j'ai publié un livre que beaucoup n'ont pas encore lu, c'est Le jour de l'éternel, en fait, où je raconte les événements qui pour moi ont motivé la chute du régime de Mobutu et l'avènement du régime de Laurent Désiré Kabila. En fait, c'est un livre politique, mais qui est structuré sur la parole, sur la Bible. C'est un livre qui est à mi-chemin entre la politique.
Le livre, il est disponible ou comment?
Non, justement, il n'est
pas encore disponible.
Non, il a été vendu à un moment donné ici parce qu'il a été présenté au Grand Hôtel par le président du Sénat en 2009. Bon, l'armateur envoyé, c'est l'éditeur, ne rend pas souvent disponible ce genre de publication. Je compte le faire venir en stock d'ici là, par mes propres moyens. Si vous ne disparaissez pas de mon espace, je vous promets de vous réserver un exemplaire.
D'accord, j'attends cet exemplaire, professeur. On me signale que nous sommes à la fin de notre entretien. Peut-être un petit mot en guise de conclusion.
Oui, d'abord, le petit mot, c'est de vous dire merci. Vous savez, quand quelqu'un vous appelle pour vous parler de vous-même, c'est que c'est un honneur. Merci de cet honneur que vous me faites. Deuxièmement, je voudrais vraiment profiter de ce micro pour appeler les hommes de lettres, ceux qui ont encore des manuscrits, ceux qui hésitent encore à écrire. Ce qui est la meilleure façon d'écrire, c'est d'écrire, c'est de ne pas hésiter. Il faut donner. Il y a des critiques littéraires, il y a des gens qui peuvent vous aider à améliorer votre manière d'écrire. Troisième, dernier mot, c'est que je voudrais appeler que les hommes de culture, que les hommes de politique puissent considérer que la littérature n'est qu'un moyen, la politique n'est qu'un moyen. L'objectif final, c'est que notre pays se retrouve très haut. Et c'est le message que vous avez donné en dernier lieu.
Grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais le professeur Philippe Massé-Gabio, homme politique, professeur d'université et écrivain. Merci à Guy Manzangou qui était à la prise de son, micro, Kéline Couté. Retrouvez cette émission sur notre site internet www.radiokapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.